Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Je suis aujourd'hui en conversation téléphonique avec Monsieur Gallien, responsable de l'action culturelle à la mairie de Crest, qui le 20 avril prochain vont organiser un Cluedo géant à la tour de Crest. Monsieur Gallien, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez tout simplement nous parler un petit peu de la genèse de ce Cluedo géant et puis qu'est-ce qui va attendre les postulants à cette enquête policière, si j'ai bien compris, qui sera un peu teintée d'histoire puisqu'il s'agit de prouver l'auteur du crime du suzerain de Crest.
C'est effectivement un des crimes derrière toute cette enquête. La première fois qu'on a fait un Cluedo à la tour, c'était en octobre dernier pendant nos animations dans le donjon pour Halloween. Et la première version avait accueilli une trentaine de personnes. Donc on était relativement content de cette nouveauté ait reçu un accueil positif et on s'est dit qu'il fallait renouer avec ce type d'animation un peu spécial qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et donc c'est grâce au travail d'Aline Perrier, une jeune étudiante en BTS tourisme qui est de Crest. Qui a eu l'idée de monter ce projet que la mairie a participé, dans lequel la mairie a participé. Et donc le but, c'est effectivement de partir d'un fait historique avéré, c'est-à-dire que pour le Cluedo du 20 avril, c'est de se placer en 1425, au moment où Louis II de Poitiers, qui est le suzerain de Crest et qui meurt sans descendance, lègue le château au roi de France. À partir de ce fait historique qui est, encore une fois, qui est vrai, nous, on imagine que ce lègue au roi de France s'est mal passé, que la famille de Louis II s'en mêle, que ses cousins s'en mêlent également, et que du coup, tout ce beau petit monde va tenter de s'étriper pour posséder ce qui était déjà à l'époque le plus haut donjon de France. Et donc, cette soirée enquête va mener les participants à découvrir tous les personnages qui interviennent pendant le jeu, à leur poser des questions, à tenter de connaître leurs motivations, leurs secrets, avec qui ils sont alliés, contre qui ils agissent, pour ensuite arriver à trouver, au bout d'une heure et quelques de temps de jeu, les meurtriers.
Alors, on ne sait pas s'il y en a un ou deux, il pourrait y en avoir plusieurs, donc.
Ah ben, bien sûr.
Je ne vais pas vous demander de répondre à ce Cluedo aujourd'hui. Par contre, les personnages historiques qui seront dans la tour de Crest, questionnés par ceux qui voudront bien se prêter à ce jeu, sont-ils des amateurs? Comment ça se passe? Ce sont des gens qui ont appris un rôle?
Ce sont complètement des amateurs qui sont des amis de la jeune étudiante Aline Perrier, qui est en BTS touriste, qui a inventé pour la première fois une histoire là-dessus. Donc c'est vraiment cet amateur. C'est bon enfant, mais par contre, travail d'amateur ne veut pas dire travail de mauvaise qualité parce qu'ils répètent depuis déjà plusieurs semaines sur leur rôle et chacun sait très précisément ce qu'il a à dire et ce qu'il a forcément à cacher également au public.
Donc un postulant à la découverte de ce crime doit poser les bonnes questions aux 7 comédiens amateurs alors.
Exactement, il doit savoir poser les bonnes questions, il doit arriver à remettre tous les morceaux du puzzle en place pour tout simplement comprendre l'intrigue et enfin pouvoir la révéler.
Alors cette histoire de Cluedo géant, c'est la deuxième fois que ça se passe à Crest, mais ça existe ailleurs ou c'est vraiment une invention
Non, ce n'est pas une invention crétoise, c'est une adaptation crétoise parce que la tour de Crest se prête naturellement très très bien à des soirées enquêtes. C'est vrai que les jeux de société fonctionnent très bien en France. Hein. On voit qu'il y a un engouement dans les clubs de jeux. Il y en a d'ailleurs un à Crest qui s'appelle Archijeux qui marche extrêmement bien. Et ce concept est mis au goût du jour, que ce soit dans des clubs, que ce soit dans des lieux publics. Le Cluedo est un jeu que beaucoup, beaucoup de gens connaissent. Et c'est vrai que des soirées enquête, il y en a un petit peu partout en France. Mais ce n'est que la deuxième fois qu'on utilise le lieu prestigieux de la tour pour mettre en place une soirée enquête à Crest.
En grandeur nature, hein, c'est ça que vous voulez me dire. Ça existe déjà en grandeur nature avec des comédiens qui jouent un rôle, etc.
Oui, tout à fait. Ça existe, ça existe en grandeur nature où tous les comédiens et également les participants sont costumés. On n'en est pas encore là à Cray. Il y aura juste des comédiens qui sont costumés pour être raccord avec l'époque, si je peux dire. Et vraiment, c'est l'occasion de passer une bonne soirée entre amis ou en famille. C'est tout de même quelque chose qui est accessible, allez, on va dire, à partir de 11-12 ans. Et après, donc, que ce soit pour les adolescents, mais également, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur les adultes, c'est une soirée pour les adultes sans aucun problème, qui peut plaire vraiment à beaucoup.
Est-ce qu'il y a une jauge maximum ou est-ce que vous pouvez accueillir la moitié de la Drôme dans la Tour de Cray ?
Ah, ben écoutez, on est plutôt, on va dire, il y a trois séances. Il y a des séances à 18h, à 20h30 et à 22h30. Le maximum, il faut accueillir 40-45 personnes à chaque séance.
Faudrait-il mieux réserver auparavant ou pas ?
C'est vivement conseillé. Là, les inscriptions vont bon train depuis déjà 4-5 jours. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante, tour@mairie-cray.fr, ou sinon contacter le 04 75 76 61 14. C'est effectivement des inscriptions qui sont fortement conseillées par les organisateurs.
Bah oui, si vous avez fixé une jauge maxi à 45 personnes, faut réserver quoi.
Il vaut mieux réserver, oui.
C'est un petit peu la prolongation de certains jeux de rôle qu'on peut voir aussi en grandeur nature.
Oh, c'est quand même bien différent parce que dans les jeux de rôle, grandeur nature, vous jouez un rôle. Alors que dans le Cluedo, en fait, vous ne jouez pas de rôle si ce n'est celui qui veut tenter de résoudre l'énigme. C'est-à-dire que vous ne faites pas partie intégrante du jeu. Dans un jeu de rôle grandeur nature, en plus j'en ai déjà fait, donc je connais bien, vraiment vous êtes complètement impliqué dans l'histoire. Alors que dans un Cluedo, on vous demande justement plutôt de décortiquer une histoire, mais sans rentrer dedans. C'est-à-dire que le public ne joue pas un jeu. Le public ne se retrouve pas avec une fiche de personnage à apprendre comme dans un grandeur nature, un jeu de rôle grandeur nature. Mais là, vraiment, c'est uniquement un enquêteur externe qui arrive sur une situation et qui doit résoudre le problème qui lui est posé. Et c'est pour ça que le Cluedo, d'ailleurs, vous pouvez aussi bien avoir des histoires qui datent, qui sont mises en place pendant le Moyen-Âge, qu'au XIXe siècle, que dans l'histoire, l'histoire contemporaine actuelle. Hein, mais on peut en faire vraiment des variantes à loisir.
Il suffit juste d'avoir un peu d'imagination pour concocter un scénario qui tient le choc, quoi, je suppose.
Il faut effectivement avoir un scénario qui tient le choc. Il faut être assez vicieux et assez retors pour imaginer des rebondissements, pour imaginer des fausses pistes, parce que ça, bien évidemment, il va y avoir des fausses pistes. C'est évident que les personnages ont pour but de faire en sorte que l'énigme ne soit pas résolue. Et encore plus, là où les coupables vont tout faire pour que la vérité n'éclate pas. Donc, bien évidemment, le rôle des personnages, ça va être d'embrouiller littéralement les enquêteurs et de faire en sorte qu'ils s'orientent vers de mauvaises pistes. À ce moment-là, c'est gagné pour eux.
Mais est-ce qu'ils ont le droit de mentir carrément ?
Bien sûr.
Ils ont le droit de mentir sans vergogne.
Ils ont le droit de mentir. Mais par contre, là où est l'astuce pour décortiquer le vrai du faux, c'est qu'il y a des personnages, effectivement, qui sont retors, qui vont sciemment mentir aux gens. Mais il y en a d'autres qui jouent des rôles plus gentils, qui, eux, vont dire la vérité. Et ça sera aux enquêteurs de déterminer qui ment et qui dit vrai en recoupant toutes les informations qu'ils ont obtenues.
Il faut peut-être arriver avec un petit carnet, non, pour noter tout ce que les gens disent.
On met à disposition, effectivement, des feuilles de papier et des crayons pour faire en sorte que tout le monde puisse prendre des notes. Effectivement, il faut prendre des notes. Et en plein milieu de la partie, généralement, on a un petit, alors pas un temps mort, mais plutôt une petite interruption de partie où on réunit tous les participants et tous ensemble, on fait un point. Et là, les participants échangent certaines informations. Il y en a certains d'ailleurs qui ne veulent pas parce qu'ils veulent, et s'ils pensent être sur la bonne piste, ils ne veulent surtout pas que les autres participants obtiennent également ces mêmes pistes. Donc il y en a certains qui ne disent rien. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, communiquent parce qu'ils sont complètement largués et qu'ils ont du mal à retrouver le vrai du faux. Donc ce petit temps de concertation permet pour chacun de voir un petit peu toutes les informations qu'il a obtenues, toutes les informations qui lui restent à obtenir. Et ensuite, la partie se renouvelle encore. Au total, ça dure entre 1h et 1h15, une partie. Et à la fin, bien évidemment, on demande aux participants de nous dire qui sont le, la ou les coupables, de le justifier, bien évidemment, et on révèle la vérité sur cette soirée enquête.
D'après votre petite expérience de l'année dernière, est-ce que les gens, en général, ont trouvé ou ils sont bluffés et quelque part, le meurtrier court toujours ?
C'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié. Celui d'octobre dernier, pendant Halloween, sur un groupe de 15, il y en avait 5 ou 6 qui avaient eu la réponse exacte. Il y en a encore 5 ou 6 qui étaient vraiment sur la bonne voie, mais il leur manquait juste un indice pour que leurs soupçons se confirment en vraie affirmation. Et il y en avait également un autre tiers, encore 5 ou 6 personnes, qui eux, par contre, n'étaient vraiment pas sortis de l'embourbement dans lequel les personnages les avaient mis. Par contre, ils ont tous passé un excellent moment, où justement, on est sur une animation qui allie réflexion, révélation, indice, et où vraiment le participant joue quand même pleinement son rôle de joueur, parce qu'il mène l'enquête, il se retrouve au cœur de l'action, et c'est lui en fait qui dirige son propre jeu en fonction de son implication. C'est lui qui va tout faire pour arriver à ses fins et pour arriver à découvrir le, là ou les meurtriers.
Jolie soirée en perspective.
Ça devrait être une belle soirée et je conseille, moi, de venir en famille ou entre amis, en tout cas de venir à plusieurs, parce que justement on constitue des petits groupes au fur et à mesure. Rares sont les personnes qui viennent en solo. Généralement, c'est des groupes de 2 ou 3 qui se constituent et qui mènent l'enquête ensemble et qui vont de personnage en personnage pour récupérer les indices, pour discuter avec chacun, etc., etc.
Toute la tour de Cré est-elle utilisée du sommet jusqu'à sa base pour utiliser un petit peu toutes les salles avec leurs histoires respectives ?
Presque, presque. On ne monte pas jusqu'aux terrasses parce que à 22h30, il fait quand même un petit peu frais encore. Mais effectivement, les personnages sont répartis sur différents étages de la tour.
Et quand vous parlez du fait que vaut mieux être en groupe, mais alors vaut mieux questionner tous les 7 comédiens bénévoles tous ensemble ou faut se répartir ? Non, vaut mieux les voir tous ensemble, puisque sinon il y a des éléments de réponse qu'on peut zapper et donc à ce moment-là, on n'aura pas toute la vérité. Il ne faut pas se répartir les tâches. J'essaie d'avoir une stratégie, hein. Je me sens déjà très impliqué dans cette histoire, je me demande si je ne vais pas m'inscrire.
Alors moi, je vous conseille de vous inscrire en amont, histoire que vous soyez sûr de participer, de venir avec des amis et ensuite de questionner pendant 3-4 minutes chacun des personnages au fur et à mesure de votre progression dans la tour. Et une fois que vous les avez tous questionnés, et ben là, vous vous prendrez un petit moment avec vos amis pour faire tout simplement un petit point, un petit bilan de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez vu, de ce qui vous semble pas logique, de ce qui vous semble logique. Quand vous avez éventuellement des doutes, rien ne vous empêche, bien au contraire, de retourner voir le personnage pour lequel vous avez des doutes sur ce qu'il vous a raconté, pour le re-questionner de nouveau et lui en demander toujours un petit peu plus.
Pour le mettre en défaut.
Exactement, exactement. Si lui, il vous dit que à 11h, il était en bas de la tour, alors que vous avez rencontré 10 minutes plus tard une villageoise qui vous disait que, à cette heure-ci, il était dans une autre ville ou il était en tout cas absolument pas au château, il y en a bien un des deux qui ment. Lequel ? Ça, c'est à vous de le découvrir.
Et alors, dernière petite question, je suppose que si vous venez faire de la publicité pour cet événement, c'est qu'il y a encore des places disponibles pour que des gens puissent s'inscrire quand même.
Oui, tout à fait. Oui, il reste encore des places dans les 3 séances, il n'y a pas de souci.
Très bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question, monsieur Gallien.
Il faut peut-être juste préciser quand même qu'il y a des frais de participation qui sont demandés aux participants, qui sont à hauteur de 3 euros par personne.
Et je vois aussi dans votre petit papier que c'est conseillé aux plus de 12 ans, parce qu'il pourrait y avoir des sensations trop fortes, ou le fait que ça parle de crime, c'est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans ?
Alors non, parce que les crimes, ils sont complètement imaginaires et il n'y a pas de démonstration de violence, c'est absolument pas le principe. Mais c'est juste qu'au niveau réflexion, l'histoire qu'a concocté Aline Perrier, le service de l'action culturelle et la régie de la Tour de Cré est vraiment assez, j'allais pas dire perverse, mais pas loin quoi. Pleine de rebondissements, donc du coup, il vaut mieux être déjà un adolescent pour pouvoir avoir le raisonnement qui suit tout au long de la soirée. Disons que c'est pas spécialement fait pour une soirée enfant, c'est sûr. À cause de la réflexion que ça demande, il vaut mieux être soit adolescent, soit bien évidemment adulte.
Très bien. Eh bien, monsieur Gallien, on n'a plus qu'à donner rendez-vous aux gens qui seraient susceptibles de vouloir jouer à l'apprenti détective. Le 20 avril à la Tour de Cré, il y a donc 3 séances, 18h, 20h30 et 22h30. Une participation est demandée de 3 euros par personne, plutôt pour les plus de 12 ans. Et une réservation requise par téléphone au 04 75 76 61 14 ou au 04 75 25 32 53 ou au mail tour@mairie-du6cray.fr. Je crois que j'ai tout dit.
Exactement ça.
Ben, monsieur Gallien, merci de nous avoir contactés pour promouvoir cet événement qui est très sympathique.
Et j'espère vous voir le samedi 20 avril.
Sait-on jamais ? En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.
À vous aussi. Au revoir, à bientôt.
Interview. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.